Donc en fait, bah du coup, ça va. C'est une intervention qui va faire assez directement écho par bien des aspects à l'intervention de Cyril Trimaille. Ça va nous permettre, je pense aussi, d'illustrer ou de mettre du contenu concret à certaines des notions qui ont été posées ce matin, je l'espère. Donc on va, je vais présenter ça comme un éclairage complémentaire hein, à l'intervention de Cyril. Et dans ce but, je vais vous présenter quelques aspects de deux recherches qui se situent dans le champ de la sociolinguistique. Une sociolinguistique que je qualifierais d'ethnographique et d'interactionnelle, et de recherches qui s'inscrivent aussi dans le domaine de recherche qui s'intéresse à des questions éducatives. Donc à l'intérieur de ce domaine de recherche en éducation, les travaux dont je vais vous parler se situent plus précisément sur le terrain de l'enseignement professionnel. Alors ce segment du système éducatif, il se caractérise en premier lieu en France tout au moins, et d'un point de vue pour l'instant assez macro, donc du point de vue de la sociologie de son public, donc je parle ici en termes de grandes tendances statistiques, il se caractérise par le fait que la population des lycées professionnels y est globalement orienté selon des processus de sélection sociale et scolaire qui aboutissent à une surreprésentation d'élèves de milieux populaires, c'est-à-dire que les CSP des parents se répartissent de manière inégale dans le système et celles qui sont rattachées à une macro-catégorie dite défavorisée sont plus représentés dans le professionnel que dans les lycées d'enseignement général ou technologique. Une autre caractéristique de ce volet de l'enseignement public, c'est qu'il propose généralement après la dernière année de collège, donc la troisième, des formations courtes en 2 ou 3 ans aujourd'hui, qui préparent les élèves à une entrée relativement rapide dans le monde du travail. Alors ce sont ces deux éléments conjugués, sélection sociale et formation courte, qui ont conduit des sociologues comme Pierre Bourdieu et Patrick Champagne, ou sur la base de données réactualisées plus récentes, Hugo Paletta, à considérer l'enseignement professionnel comme un volet du système éducatif français dont une des fonctions spécifiques serait d'accueillir et d'offrir une voie de salut, je cite Paletta, aux jeunes d'origine populaire les plus rétifs à la socialisation scolaire et ou les plus en difficulté, exclus à ce double titre des études longues. Donc si l'on ajoute enfin à ces premiers éléments le fait que les élèves du volet professionnel représentent quand même un tiers de la totalité des lycéens général, technologique, professionnel confondus, on pourrait s'attendre à ce que les sciences de l'éducation, enfin les sciences humaines et sociales en général, aient investi massivement ce terrain, et pourtant pas vraiment, enfin il n'y a pas énormément de travaux qui s'ancrent sur ces terrains-là. Et si la recherche se développe quand même, a quand même tendance à se développer ces dernières années, le contexte de crise économique n'étant d'ailleurs sans doute pas étranger à ce regain d'intérêt, elle demeure encore largement parcellaire, très peu structurée, et la sociolinguistique y est encore moins représentée que d'autres sciences humaines et sociales dans le champ de la recherche en éducation. Je pense par exemple à l'anthropologie ou à la didactique professionnelle qui ont davantage investi l'enseignement professionnel. Alors pourtant, des contributions de la sociolinguistique pourraient s'orienter dans plusieurs directions à partir de ces terrains-là. Et sans du tout épuiser le sujet, je vais essayer de pointer quelques-unes de ces directions dans ma présentation. Donc à partir de 2 recherches, la première sur laquelle je vais m'appuyer, je l'ai conduite dans le cadre de ma thèse. Certains d'entre vous qui ont déjà suivi des formations ici en ont déjà un petit peu entendu parler. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais ça me servira quand même à illustrer certaines des choses qui ont été dites par Cyril ce matin. Donc elle a consisté, cette recherche, pour aller très vite, dans une étude des répertoires verbaux, des répertoires communicatifs d'adolescentes scolarisées dans un lycée professionnel en BEP secrétariat comptabilité. Et puis l'autre recherche qui est encore en cours et sur laquelle je m'attarderai peut-être un petit peu moins, mais je vais quand même essayer d'en parler de manière un peu conséquente. Elle porte quant à elle sur des aspects de la socialisation langagière et de la socialisation professionnelle de garçons scolarisés en CAP de mécanique automobile. Donc, la première recherche, je l'ai conduite pendant près de 4 ans dans un lycée de l'agglomération de Grenoble, donc qui s'appellera ici le lycée Gajard. Comme vous allez le voir, au fil des interactions, des opportunités sur le terrain, des analyses et aussi des contraintes du terrain, j'ai peu à peu resserré cette recherche, le sujet autour de l'étude des répertoires de 19 adolescentes d'une même classe de BEP secrétariat comptabilité. Et là, je vais peut-être passer, parce que c'était du cadrage un peu théorique et il a été fait. Je vais dire très vite que cette étude s'est inscrite dans la continuité de travaux grenoblois qui ont pour particularité d'articuler étroitement des orientations sociolinguistiques et didactiques, qui ont contribué à poser un certain nombre de notions que Cyril a définies ce matin, répertoire communicatif, compétences de communication. Plus récemment, on travaille avec la notion de socialisation langagière. Enfin, tout ça fait partie de mon cadre théorique aussi. Donc, au début des années 2000, c'est justement en raison de la connaissance que la direction du lycée a des travaux grenoblois, qu'elle se tourne vers notre laboratoire, enfin à l'époque le laboratoire dans lequel je faisais ma thèse, qui est celui de Cyril Trémaille aujourd'hui et de Marinette Maté, se tourne vers nous pour nous demander de travailler avec eux pour mieux prendre en compte la diversité des ressources linguistiques des élèves. Donc en réponse à cette demande du lycée, qui était, vous le voyez bien, très 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 vaste, hein, une grande question, on établit une convention de recherche collaborative avec trois grands axes qui sont affichés là. Un axe de recherche sur les répertoires et pratiques langagières des élèves, la formation d'enseignants de français et d'anglais prenant appui sur les résultats de la recherche, et puis la conception et l'expérimentation d'activités pédagogiques dont je donnerai un tout petit exemple dans mon exposé. Alors, une des conséquences de ma participation simultanée à ces trois axes de travail, ça a été de complexifier d'emblée la construction de l'objet de la recherche. Mais cette participation assez intensive sur le terrain et dans un mode de recherche collaborative a aussi constitué un fil conducteur pour mon travail de terrain, pour lequel j'ai donc investi cet établissement scolaire en essayant de comprendre comment différentes formes d'hétérogénéité linguistique étaient produites, étaient gérées et étaient interprétées par les différents acteurs du terrain. Avec cet objectif, donc j'ai mis en œuvre une approche sociolinguistique ethnographique qui combinait différents types de modalités de production de données ou d'observables qui sont synthétisées sur le tableau de la première page du document qu'on doit vous avoir distribué. Je rentre pas dans le détail, hein, mais donc j'ai mis en œuvre cette combinaison de méthodes de production d'observables dans ce lycée qu'on peut qualifier, enfin qui était socialement et scolairement disqualifié et traversé, comme on va le voir, de fortes tensions sociales et idéologiques. Donc vous avez sur la diapo des éléments de contexte hein, qui, à l'échelle de l'établissement, qui permettent de le considérer comme un des lycées qui fait partie de ceux qui sont les plus fragilisés du système éducatif. Donc il connaît à l'époque de l'enquête une notoriété assez peu valorisée, qui est liée entre autres à son inclusion dans le dispositif de zone éducation prioritaire, à son label professionnel et puis à une situation socio-urbaine que je qualifierais rapidement de périphérique et économiquement défavorisée. Donc un lycée globalement disqualifié, mais qui connaît bien sûr en interne une forte diversité interne, y compris sur le plan sociolinguistique, ce qu'ont d'abord montré deux enquêtes par questionnaire dont certaines dimensions se rapprochaient un petit peu de ce que Cyril a présenté ce matin sur le travail de Véronique Nantes, je crois. Qui était composée d'une enquête, donc c'était deux enquêtes, une enquête des pratiques sur les pratiques langagières des élèves vues par les élèves et sur les pratiques langagières des élèves vues par les enseignants. Je ne rentre pas là non plus dans les détails, mais je voudrais juste souligner un résultat que je considère comme assez fondamental dans la compréhension du contexte. Donc ces enquêtes ont d'abord montré que le plurilinguisme grenoblois lié aux migrations trouvait bien une concrétisation partielle dans les réponses des élèves, avec un gros effet de loupe sur les filières dévalorisées. Et elles ont confirmé par ailleurs l'existence d'un très grand écart entre cette diversité linguistique telle qu'elle était décrite par les élèves et la focalisation presque exclusive des enseignants sur les bilinguismes supposés de certains élèves des filières les moins valorisées, bilinguisme arabe-français, donc une très forte focalisation sur ce type de bilinguisme et sur ce type de filière. Bilinguisme envisagé le plus souvent sous l'angle du handicap ou du déficit linguistique, autrement dit comme un frein intrinsèque aux apprentissages scolaires, comme un facteur explicatif de l'échec scolaire de certains élèves ou des difficultés de certains élèves. Alors ce hiatus entre la diversité linguistique décrite par les élèves et perçue par les enseignants, ça constitue à mon sens un élément clé de compréhension. Et il fallait donc parvenir à des descriptions, une compréhension beaucoup plus fine des situations sociolinguistiques des élèves pour travailler avec les enseignants à éventuellement d'autres manières de prendre en compte ces répertoires verbaux. Donc une enquête a été entreprise à une échelle plus locale, hein, dans une classe de BEP. Donc j'ai accompagné pendant plus d'une année scolaire cette classe dans différentes activités. Et les relations qui ont été établies avec les élèves ont permis d'enregistrer des interactions dans des situations de communication variées, au lycée mais aussi à l'extérieur. Et puis d'avoir accès à des fragments de la biographie langagière des élèves. Donc sur les 23 élèves de cette classe, donc 19 filles, 4 garçons, mais les 4 garçons étaient très peu présents, et finalement c'est pour ça qu'ils n'ont pas été intégrés pleinement à l'échantillon, mais ils ne sont pas absents quand ils sont là. Donc 23 élèves, 19 filles, 4 garçons, et donc sur les 19 filles, toutes sauf une déclaraient vivre quotidiennement en contact d'au moins une autre langue que le français. Donc elles se présentaient toutes comme des héritières d'histoires de migration familiale, porteuses de compétences, de ressources dans d'autres langues que le français. Et la liste que vous avez sur la diapo qui est affichée offre un aperçu de la pluralité de ces ressources, en tout cas telles qu'elles ont été catégorisées par les locutrices elles-mêmes, hein, dans des entretiens, dans des interactions spontanées. Donc selon différentes modalités de contact avec le français, les environnements linguistiques de ces jeunes filles ont pu comprendre depuis leur petite enfance, donc depuis leur prime socialisation, des langues du Maghreb, du Cameroun, des Comores, d'Arménie, d'Italie et du Portugal. Donc si vous voulez, on pourra revenir sur cette liste de vignettes, mais je vais avancer dans la description de la représentation graphique qu'on a essayé de faire des répertoires plurilingues de ces adolescentes. Donc pour donner à voir certaines dimensions qui nous sont apparues souvent méconnues chez des enseignants, des répertoires, et chez des élèves eux-mêmes, hein, des répertoires plurilingues à l'échelle de la biographie des élèves, on a d'abord élaboré des représentations graphiques dont je vais vous donner un aperçu. Voilà, mais d'abord, juste préciser que pour élaborer ces représentations graphiques des répertoires plurilingues des élèves, on a considéré quatre paramètres qui jouent dans la constitution et le changement des répertoires, qui sont bien sûr les ressources linguistiques, qui peuvent donc varier, comme Cyril l'a dit ce matin, au fil du temps. Certaines peuvent être intégrées au répertoire, d'autres peuvent aussi en disparaître. La dimension diachronique, qui varie selon les lieux où elles se trouvent, et puis selon les différents contextes d'interaction sociale, d'activité sociale quotidienne auxquelles elles participent. J'en reviens donc à cette liste de vignettes de couleurs, qu'il faut voir comme une sorte de palette, hein, qui donne un aperçu de la diversité des lectes, pour éviter d'utiliser le terme langue pour l'instant, que les jeunes filles mentionnent comme faisant partie de leur répertoire, verbal. C'est donc avec cette sorte de palette, avec cette palette de couleurs, et en faisant varier la taille des vignettes, que j'ai représenté les répertoires. Donc là, vous avez un exemple de représentation graphique du répertoire de Silva, où l'arménien est en rouge, le russe en orange et le français en bleu. Je le décompose très rapidement pour que vous puissiez le lire. Donc, on a d'abord des macro-contextes qui correspondent, qui se dégagent du discours autobiographique des locutrices. Donc, des macro-contextes qui peuvent correspondre soit à des lieux de vie dans la biographie, soit à des grandes phases. Des grandes étapes de la vie des sujets. Pour Silva, un macro-contexte arménien avant la migration, puis à Grenoble, à l'époque de l'arrivée de Silva à l'âge de 12 ans, et puis une troisième phase qui correspond à l'époque de la recherche. On place ensuite... Je sais pas si on voit... des symboles qui renvoient à des sphères d'activité quotidienne. Donc en gros, vous avez le triangle qui correspond à l'école, le soleil qui renvoie à la sphère des loisirs, et puis l'ellipse à la sphère des activités familiales. Et on mentionne enfin donc les situations types d'interaction qui sont associées aux lectes utilisées dans ce type de situation. M'arrêter si c'est pas clair. Par exemple, donc dans le premier macro-contexte, l'arménien en rouge représente la principale langue de communication familiale en Arménie. Et puis, On voit que le français en bleu pénètre peu à peu dans la sphère des échanges familiaux dans les deux phases qui suivent la migration. Pour Vanessa, dont le père est d'origine algérienne et la mère d'origine portugaise, on voit que l'acquisition et la pratique du portugais en vers sont étroitement associées à la relation privilégiée qu'elle entretient avec sa grand-mère maternelle, une personne immigrée du Portugal depuis de nombreuses années, qui réside à Grenoble. Et cette relation entre Vanessa et sa grand-mère se tisse, se conjugue à des liens forts et intergénérationnels dans le milieu associatif portugais, où sa grand-mère est très active. Et où Vanessa a une partie de ses meilleurs copains, groupe de pairs dans lequel le portugais est une des langues utilisées. Donc ces représentations graphiques, elles permettent donc, vous voyez, d'illustrer des correspondances entre différents types de mobilité, mobilité courte, quotidienne, des mobilités migratoires, des rencontres liées à ces déplacements et puis des reconfigurations successives des répertoires qui vont dépendre pour partie des réseaux sociaux dans lesquels les locuteurs sont insérés et dans lesquels ils se socialisent. Alors d'autres jeunes filles de la classe à l'extérieur du lycée utilisent aussi d'autres langues que le français de manière intensive, régulière, mais parfois dans un nombre beaucoup plus faible d'activités sociales, dans des réseaux plus serrés, plus denses, et avec un nombre restreint de partenaires conversationnels. Et c'est par exemple le cas pour Sakina, qui déclare être en contact avec l'arabe dialectal de manière quotidienne au sein du noyau familial, et essentiellement dans des échanges où les langues sont alternées et mêlées. Je comptais vous faire écouter un extrait auto-enregistré chez Sakina, mais je crois qu'on va... Alors, je vais écouter. Donc je crois que c'est sur l'exemplier. Je ne sais pas si c'est resté sur l'exemplier. Normalement, c'est le premier extrait chez Sakina. Je ne sais pas si ça y est. Donc je vous donne juste quelques éléments de contexte. Donc on est chez Sakina, qui au passage est donc collaboratrice dans cette recherche, puisqu'elle enregistre des échanges chez elle. Oui, on est dans la cuisine, c'est la fin du déjeuner, et son frère va ouvrir un échange à propos, il va critiquer le café. Et il adresse cette critique à Sakina et s'ensuit un échange entre Sakina et sa mère. Donc, je vous laisse écouter.
C'est pas moi qui l'a fait, c'est normal.
Vous
qui l'avez fait,
vous pointez.
Bah, si, il a fait le café.
Normal, franchement.
Bah, en fait, il est bon. Moi, franchement, je vois pas la différence entre un bon café et un mauvais café. Tant que c'est du café mélangé à du lait,
moi,
ce que je sais.
Il y a moi qui dis au lait, je dis ça pour que. Pour que le gaz. Je pense que c'est un bébé qui chante une avec des sables.
De quoi, des sabha, elle est restée. Ça doit être papa, elle a dû le mélanger parce qu'il jette jamais.
Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais juste souligner deux choses. D'abord, je pensais avoir laissé la transcription sur l'exemplier, puis je dois l'avoir enlevée. J'ai pas remise. Donc vous n'avez pas la transcription, mais c'est pas. Pas très grave. Oui, je voulais souligner d'abord le style de parole, la façon de parler que Sakina et son frère utilisent entre eux au début. Je ne sais pas si vous avez entendu, avec la mobilisation d'un ensemble de traits phonétiques, prosodiques et puis des traits lexicaux aussi, qui peuvent apparaître comme des marqueurs générationnels sociaux et géographiques. Alors par exemple au niveau lexical, il vaut chill café, donc à Grenoble, hein, il vaut pas une thune, oui, il vaut pas une thune, avec l'affrication ou palatalisation dont parlait Cyril ce matin aussi. Donc il vaut chill, il vaut rien. Qu'on entend à Grenoble dans tout milieu, hein, plutôt jeune, mais pas seulement. Ensuite, cet extrait permet de bien mettre en évidence un aspect de la compétence plurilingue ou de la compétence de communication plurilingue, souvent peu considérée parce qu'elle est en quelque sorte muette, et qui constitue pourtant bien une des ressources communicatives, qui est la compétence de réception ou de compréhension, puisque ici, en arabe dialectal chez Sakina et puis en français chez sa mère, compétence centrale dans des modalités de communication bilingue mise en œuvre par exemple dans cet extrait, modalité qu'on appelle parfois d'intercompréhension croisée, où chacun des interlocuteurs va actualiser, produire dans une langue et utiliser l'autre en réception. Donc de manière très attendue, ces phénomènes d'alternance et de mélange de langues sont mentionnés par de nombreux élèves de la classe comme des modalités ordinaires de leur communication familiale, et en même temps les élèves eux-mêmes ont tendance à souvent à minimiser ces modalités, parfois à les occulter ou parfois à les dénigrer, à tenir un discours dévalorisant sur les pratiques familiales. Surtout lorsque une des langues du répertoire est utilisée davantage en réception qu'en production. Alors cette auto-dévalorisation de certaines langues et compétences langagières, elle est sans doute à mettre en relation avec leur très faible valorisation dans les sphères extrascolaires, dont souvent celle de la famille, hein. On est dans des phénomènes du type de l'auto-dit catalane, enfin de la sociolinguistique catalane, qui a développé donc une théorie sur l'intériorisation de la minorisation, hein. Et puis dans la sphère institutionnelle de l'école, par des enseignants, mais aussi, comme on va le voir, par des élèves entre eux. Certaines désignations que les adolescentes utilisent pour nommer des langues familiales, des langues de leur répertoire, renvoient assez clairement à l'intériorisation du statut de certaines langues de leur répertoire, comme par exemple Sakina, qui nomme régulièrement, donc elle nomme le parler familial, le remix, elle lui donne un nom, et surtout elle nomme l'arabe dialectal de ses parents l'arabe barbare, donc pour renvoyer à la variété dialectale. Donc cette auto-dévalorisation, elle peut être aussi mise en relation pour certaines de ces filles avec le type de rôle social qu'elles endossent au lycée, et qui semble les enfermer dans une façon de parler socialement marquée et enfermement renforcé dans des dynamiques relationnelles, dans le cas de cette classe, entre deux groupes d'élèves et au sein de ces groupes. Alors, je vais aborder rapidement ce dernier point de cette recherche. Donc, la configuration de cette classe se caractérisait en effet par la construction de deux groupes de pairs, deux mini-réseaux relationnels et communicatifs qui tendaient au fil du temps à se différencier de plus en plus nettement. Donc ces deux groupes de pairs, je les ai appelés le groupe des 6 et le groupe des 13 sur la base du nombre de leurs membres respectifs. Et pendant toute la période de l'enquête, les relations entre ces deux groupes étaient tendanciellement conflictuelles, comme elles l'étaient entre le groupe des 13, les membres du groupe des 13, et la plupart des enseignants. Alors bien sûr, ces différenciations se manifestaient sous de multiples aspects, et pour ce qui concerne le plan langagier, Il se distinguait dans les pratiques des filles de chacun des groupes et dans la manière dont les sujets se représentaient, les langues, les styles de parole, les genres discursifs, les normes, ou encore les apprentissages linguistiques. Donc en rupture avec la diversité des pratiques plurilingues qui étaient déclarées en usage à l'extérieur du lycée, le français était, de manière très peu surprenante, très largement prépondérant dans les échanges à l'intérieur du lycée. Mais les filles du groupe des 13 se voyaient donc attribuer régulièrement, par des élèves et par des enseignants, l'usage de formes stigmatisées dans leur façon de parler en français, façon de parler étroitement rattachée dans les discours, dans les descriptions que les acteurs en donnaient, à la langue arabe, et ces adolescentes faisaient l'objet de représentations, d'attitudes assez négatives de la part d'enseignants, de la part d'élèves, qui décrivaient les pratiques communicatives des membres du groupe des 13 comme étant de manière stable, déviante, par rapport à ce qui est attendu et ce qui est jugé acceptable dans l'espace scolaire. Alors, c'est ce qu'illustre, là je pense que vous l'avez sur l'exemplier, l'extrait, ouais, c'est le premier extrait, l'extrait A. Donc c'est un extrait d'entretien avec deux membres du groupe des 6, Ambre et Lilia. Et donc juste avant cet extrait-là, enfin cette séquence, j'ai demandé à Ambre ce qu'elle entend par le terme française, ethnonyme qu'elle vient de... d'utiliser pour désigner son propre groupe, le groupe des 6. Et donc c'est ce travail d'explicitation qui l'a conduit avec Lilia à décrire une altérité radicale du groupe des 13 par rapport à leur propre groupe. Donc vous l'avez sous les yeux et je ne vais pas tout lire et juste me centrer sur quelques-uns des segments de discours qui sont en gras. Donc, dans ce discours, la différenciation entre les deux groupes repose sur la présentation de plusieurs traits diacritiques ou distinctifs ou différenciateurs. Donc, le phénotype, l'attitude, les résultats scolaires et les comportements, des comportements langagiers qui sont rattachés à l'arabe. Donc, dans on crie pas quand on parle, elle parle en arabe aussi, je trouve. Enfin bref, vous voyez sur l'extrait. Comportement auquel elles associent de façon assez insistante une fonction cryptique. Or, cette fonction cryptique, elle sert ici sans doute davantage à tracer les frontières entre les groupes et à exprimer des rapports de force qu'à décrire des pratiques effectives qu'on aurait pu observer. Les filles du groupe des 13 n'échangent pas en arabe entre elles. Mais donc ce discours peut être considéré comme un discours qui va naturaliser ou essentialiser des liens, enfin un lien entre des pratiques langagières telles qu'elles sont perçues ou telles qu'elles sont représentées et des identités qui sont plus ou moins fantasmées ou réifiées. Et je dis plus ou moins fantasmées ou réifiées parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que Ambre laisse entendre dans ce discours, les deux groupes des 6 et des 13 ne clivent pas exactement des origines socio-ethniques différentes et homogènes. Chacun des groupes se compose de descendantes de migrants d'origines diverses et toutes sauf une des filles de la classe sont de nationalité française. Autrement dit, on n'a pas d'un côté des françaises de souche entre guillemets et de l'autre des jeunes filles issues de l'immigration maghrébine comme le laisse entendre ce discours. Les deux groupes sont de ce point de vue plus hétérogènes qu'il n'y paraît, mais des élèves entre elles s'attribuent réciproquement des identités socio-ethniques les intériorise à des degrés divers et les endosse de manière variable selon les situations. Donc la forte focalisation sur l'arabe qu'on observe dans cet extrait, mais aussi dans bien d'autres discours, elle est quand même aussi en partie liée à une réalité objective d'une forte proportion de locuteurs de cette langue dans le lycée, mais elle tend en même temps à masquer certains pans de la réalité sociolinguistique, réalité tant objective que telle qu'elle est vécue par bon nombre d'adolescents, qu'ils soient arabophones ou non. Alors l'action conjuguée de ce processus de focalisation et de masquage ou de gommage participe dans ce contexte à un processus de différenciation radicale qui se décline aussi dans les discours des uns et des autres sous des couples de désignations qui vont clairement différencier et hiérarchiser les deux groupes. Vous avez quelques-unes de ces désignations dans le tableau de la deuxième page, je crois, telles que sage sauvage, sérieuse perturbatrice ou française arabe. Vous voyez que les diacritiques ne sont pas les mêmes selon les situations, mais aussi selon les producteurs des discours et des discours différenciateurs. Les enseignants ont moins tendance, ont davantage tendance à différencier selon des critères scolaires que selon des critères ethniques, même si ça n'est pas toujours absent non plus de leur discours. C'est quand même une tendance forte. Voilà, donc en résumé, dans cette classe, dans bien d'autres espaces de la société française contemporaine, on a des catégorisations sociales, linguistiques, scolaires et ethniques qui vont se déployer dans les discours des différents acteurs et qui révèlent au final des modes de relation qui sont fondés sur des attitudes qui ont tendance à radicaliser, à essentialiser et à hiérarchiser des différences qui ne sont pas seulement linguistiques mais qui sont aussi linguistiques. Peut-être simplement pour passer quand même à la présentation de l'autre recherche, je vais simplement illustrer en vous faisant écouter deux extraits ce qu'on met concrètement encore une fois derrière la notion de variation stylistique, donc de variation situationnelle, stylistique ou diaphasique, c'est-à-dire la façon dont un locuteur va opérer des choix différents dans son répertoire, va sélectionner des ressources différentes d'une situation à une autre ou en reconfigurant la situation. Donc je vais prendre l'exemple de Lamia. Donc Lamia, elle est décrite par tout le monde comme étant la locutrice prototypique de la façon de parler du groupe des 13. Désignée très souvent dans ce contexte et pas seulement comme parler raton. Donc Lamia est décrite comme une ratonne qui est l'équivalent féminin de racaille. Donc voilà, sa façon de parler est désignée de cette manière-là, et Lamia est désignée comme une locutrice qui serait une locutrice déviante en permanence, soit qu'elle ne veuille pas faire autrement, soit qu'elle ne puisse pas faire autrement. Donc voilà un premier extrait qui à la fois va vous donner un aperçu auditif de cette façon de parler, d'accord, qui lui est attribuée de manière stable, et la façon dont elle se positionne aussi par rapport à cette assignation à l'identité d'une ratonne. Donc, comme tout à l'heure pour les extraits des enfants, prêter attention à la fois à la teneur des propos, au discours, à ce qui est dit, à la façon dont c'est dit. Et là, vous avez la transcription, c'est l'extrait B.
Voilà, mais maintenant, mais pour la moindre chose, ça y est, je suis de ratonne.
Je vais dire la vie de ma mère, ça y est, c'est le ratlon. Ça, je vais dire, ma parole, c'est vrai. Pour pas jurer, je vais dire ma parole, il va quand même dire je suis.
Ah ouais.
La moindre chose, ça. Et lui, il veut que, attends, il faut pas abuser, c'est que je vais pas parler aussi du soutenu aussi. Hein. Mmh. Oh, excuse-moi, tu peux me passer le verre, s'il te plaît, car j'en ai besoin pour boire un coup. Faut pas abuser aussi, hein.
Pourquoi tu voudrais pas parler comme ça?
Je peux parler de langage soutenu, je parle normalement. Correct, normal.
Ouais.
Pas besoin de. Je vais pas dire. Oh, donne-moi ça, sinon je vais te marrer. Je parle normalement. Hein, lui, la moindre chose, il dit ben voilà, les droits de l'homme.
Voilà, donc là, elle fait allusion à un de ses frères aînés qui lui reproche de se comporter comme une ratonne et entre autres de parler comme une ratonne. Donc vous voyez que dans cette interaction, Lamia propose une description de ce qu'elle entend par normal, soutenu, ratonne. Elle rapporte donc cette description à des situations familiales où donc son frère fait un rappel à l'ordre normatif. Donc elle catégorise des façons de parler, des styles. Et on voit que c'est surtout l'imitation qui lui sert de procédés différentiels entre les styles, entre les façons de parler, où elle construit donc des contre-types langagiers, soutenus et ratonnes, et où elle essaie d'affirmer, pour ce qui concerne sa propre façon de parler, un positionnement intermédiaire qu'elle qualifie de normal entre les deux styles. Ce qu'on a pu entendre aussi, c'est l'alternance de styles dans la façon dont elle a construit son discours. Elle l'alterne pour imiter et construire ses contre-types langagiers. Et donc on entend qu'il y a une variation au niveau du débit, de la hauteur et de l'intensité de la voix. De la fréquence de réalisation des E muets, quand elle alterne de style, elle va en prononcer plus ou moins. Et puis des choix lexicaux et morphosyntaxiques qui vont fonctionner comme des stéréotypes de chacun des styles dont elle entend se démarquer pour tenter de placer dans ce contexte d'entretien son propre curseur de la normalité, qui est donc là bien situé. Ceci dit, bien sûr, comme Cyril l'a bien souligné ce matin, aucun locuteur, la sociolinguistique l'a bien étudié, démontré, aucun locuteur n'est monostyle dans toute société différenciée. Et donc Lamia, à l'instar de tout locuteur, a une compétence de variation stylistique, sauf que il faut la débusquer. C'est vrai que pendant très longtemps, je n'ai entendu Lamia que dans ce style de parole. Et je vais vous faire écouter un deuxième extrait qui fait intervenir encore Lamia, mais cette fois dans la situation d'enquêtrice. Donc elle mène une enquête avec tous les élèves de la classe, hein, mais donc on sort du lycée. Et les élèves ont mené une enquête sur un marché urbain proche du lycée sur le thème de la diversité linguistique à Grenoble, sur le thème du plurilinguisme grenoblois. Et donc elle va interviewer une adulte inconnue. Et je vous laisse écouter Lamia dans cette deuxième situation. Donc je détaille pas la séquence didactique, on pourra y revenir après si vous voulez. Voilà, je vous... Alors, vous n'avez pas l'intégralité de la transcription, mais des petits bouts. Je vous laisse surtout tendre l'oreille, si ça veut bien.
Vous voulez vous poser des questions?
Oui, chez nous, on voudrait savoir combien de langues vous utilisez dans votre vie.
Combien de langues?
C'est le français, l'italien.
Oui, le français, c'est une langue que vous ne connaissez pas.
Vous voulez la dire, s'il vous plaît?
Le temps.
C'est vrai?
Les tons.
Les tons,
ça c'est des Pays-Bas, qui est une langue.
Les Pays-Bas?
Les Pays-Bas.
Pays-Bas,
oui, ça c'est allemand, Pologne et Estonie.
Plusieurs.
Et cette langue est pour vous.
Attendez, excusez-moi.
Vous connaissez beaucoup de gens qui la parlent?
Oui, il y a quelques familles qui habitent ici qui parlent aussi.
Notre langue. parle l'âme letton, la chaîne de Lettonie, oui, Riga, avec la ville principale, Riga.
Ah, c'est la ville, c'est la nation de la fête, voilà. C'est la capitale, c'est la capitale, voilà, c'est la capitale.
Ben, merci bien, madame.
Passez une très bonne journée.
Oui. Au revoir, merci.
Voilà, donc Lamia dans deux situations différentes. Je trouve que le contraste est assez parlant. Hein. Donc il y a bien des hésitations dans cet échange, mais ce qu'on peut souligner, c'est que Lamia porte une forte attention à son discours. Elle respecte les normes du genre de l'interview. Elle manifeste un effort de convergence avec son interlocutrice. Un effort d'ajustement, de co-énonciation avec la personne interviewée, et on pourra encore souligner des variations importantes, encore une fois, entre cet extrait et l'extrait précédent, notamment sur le plan phonétique, et puis au niveau de la hauteur de voix, du rythme et du débit. Voilà, c'est juste pour illustrer ce qu'on peut entendre par variation stylistique. Et on voit bien ici qu'un certain nombre de ressources sont susceptibles chez Lamia, dans son répertoire, elle possède des ressources qui sont susceptibles d'être reconnues, attendues dans l'espace scolaire, sauf qu'elle les active très rarement. elle les active dans une activité scolaire qui est une activité scolaire en dehors des murs du lycée, assez atypique par rapport à ce que les élèves ont l'habitude de faire dans les cours. Tout ça pour lancer éventuellement une discussion après. Je ne sais pas ce que je fais, si j'aborde la deuxième recherche ou si... Oui, bon. Je vais arrêter là sur la première pour en reparler et je reviens. Donc vous avez trois éléments de conclusion là-dessus et je vais donc essayer de vous parler d'une recherche en cours, c'est plus périlleux, mais c'est une recherche qui a démarré doucement en 2011. On a mis beaucoup de temps à trouver un établissement d'enseignement professionnel prêt à accueillir une équipe de recherche, même pour du travail collaboratif, au moment de la dernière réforme de l'enseignement professionnel, qui a ramené le bac professionnel de 4 ans à 3 ans, l'alignant sur la durée du bac d'enseignement général et technologique. Donc les lycées professionnels ont traversé des périodes de réforme pas faciles. On a engagé ce projet collectif. Hein, on travaille, donc on est deux enseignants-chercheurs du laboratoire ICAR dans cette équipe. Le pilote de la recherche s'appelle Laurent Veillard. Il est chercheur en didactique professionnelle. Donc il s'intéresse, il n'est pas en sciences du langage, il s'intéresse à la façon dont les apprentissages professionnels se font sur des lieux d'apprentissage professionnel, pour aller très vite, je suis pas didacticienne professionnelle, l'équipe compte aussi des enseignants associés à l'Institut français de l'éducation, donc ils sont associés au projet, des enseignants du volet professionnel, enseignant de mécanique, maintenance véhicule particulier, donc automobile, et véhicule industriel, donc poids lourd, et puis des enseignants de lettres histoire. Et on a engagé ce projet avec en se disant qu'on allait prendre le temps de comprendre d'abord le contexte, de voir un peu, de prendre le temps de construire des questions communes entre les enseignants et les chercheurs. Mais l'idée de départ, c'était quand même, on partait tous d'un constat qui est celui du cloisonnement très fort en enseignement professionnel entre les volets de l'enseignement général, les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement professionnel, en se disant que les transitions que les élèves, donc des élèves qui sortent, donc je m'intéresse, on s'intéresse au CAP, hein, je précise, parce que c'est pas exactement la même population scolaire dans les bacs pro et dans les CAP. Donc là, on s'intéresse surtout au niveau du CAP, qui est constitué d'élèves qui tous sortent de SECPA dans ce lycée, hein, qui donc tous sont dans des trajectoires scolaires pas évidentes, pas faciles, trajectoires scolaires et pas seulement, hein, personnelles aussi, familiales souvent. Et qui donc sont dans une formation courte de 2 ans. Et je perds le fil. Donc ce type d'élèves, on se disait au départ, ce cloisonnement ne peut pas ne pas être sans effet sur les difficultés que peuvent rencontrer ces élèves pour créer du lien, pour donner du sens au passage d'un contexte disciplinaire à un autre et pour donner du sens à l'ensemble des savoirs généraux et professionnels. Et donc on a commencé à s'intéresser au départ à comparer en fait les différences qui se passaient dans les différents contextes disciplinaires en lettres histoire, en génie... génie méca, anglais et dans l'atelier. Et notre attention s'est peu à peu, donc on a bien souligné, enfin constaté des ruptures très fortes entre, par exemple, le cours de français et le cours de travaux pratiques en atelier. Hein. Donc ça, c'est ce qui saute aux yeux, c'est ce qui a été confirmé très vite, et par les acteurs, les enseignants, et par ce qu'on a pu observer. Et puis, dans un deuxième temps, à force de passer du temps dans l'atelier, de discuter avec les enseignants, et de discuter aussi de ce qui leur pose difficulté ou question... On s'est rendu compte que une des ressources sémiotiques, un des éléments de contexte extrêmement, enfin omniprésent et extrêmement saillant dans l'atelier, c'était l'écrit. C'était l'écrit, notamment sous sa forme d'écrit professionnel. Et donc dans ce contexte-là, la revue technique automobile ou la documentation technique des constructeurs automobiles, qui, dont les élèves doivent s'emparer théoriquement pour réaliser les travaux pratiques qui leur sont donnés à faire, à apprendre à faire, sans que cette contrainte et les exigences liées à l'obligation d'utilisation de cet écrit ne soit du tout pensé jusqu'à un certain moment, hein, dans la discussion, comme problématique ou comme important dans l'évaluation scolaire des élèves. Et donc là, après avoir vu des ruptures très fortes entre l'enseignement général, le cours de français et le cours d'atelier, en fait, on en arrive aujourd'hui à mettre plutôt le doigt sur des exigences semblables en termes de compétences langagières, hein, à l'oral et à l'écrit, parce qu'il y a aussi tout un pan de l'évaluation professionnelle, pratique, qui repose sur la capacité des élèves à produire du discours réflexif sur la pratique, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et donc voilà vers où s'orientent en ce moment nos observations et nos analyses, donc avec un focus pour l'instant plus particulier sur la présence de la revue technique automobile. Donc vous voyez, donc vous avez un extrait sur la dernière page de l'exemplier. Donc cet écrit, c'est un écrit professionnel qui édicte les normes de la pratique professionnelle. Il fait partie de l'univers professionnel. Hein. Apprendre le métier, c'est aussi apprendre à respecter et à se servir de la revue technique automobile. elle pose énormément de problèmes dans y compris la façon dont elle est fabriquée, parce que pour des raisons de traduction, des raisons de terminologie spécialisée d'un constructeur par rapport à un autre, la terminologie spécialisée va varier d'une revue à l'autre. Elle est parfois, disons, le mal foutu parce que la disposition des différentes, des différents modes sémiotiques, enfin des différents supports sémiotiques utilisés dans la revue sont disposés pour gagner de la place avant d'être disposés pour faciliter l'accès au sens ou à la mise en réseau des différents modes sémiotiques, donc schéma, photo, texte. Voilà, donc on en est à peu près là, hein, où on essaye d'analyser la façon dont des élèves qui travaillent en binôme dans les travaux pratiques vont s'approprier ou contourner éventuellement l'utilisation de cette documentation écrite dans l'atelier. Entre autres de vidéos, et j'ai le temps de montrer un tout petit extrait ou pas, Marinette, donc je vous montre un extrait de juste pour que concrètement vous voyez comment la revue prend place dans un TP de mécanique à un moment donné, alors parce qu'on a aussi essayé de repérer les moments un peu rituels ou routiniers dans lesquels la revue technique est mobilisée de manière récurrente. Donc par exemple, en début de chaque TP qui dure 2 jours consécutifs, au début du premier jour, les élèves ont à réaliser une première tâche qui est de trouver, de rechercher la méthode de travail dans la revue technique. Donc c'est une tâche rituelle, mais assez compliquée, qui est évaluée à la fin de la tâche par la production d'un discours oral sur la pratique qui doit avoir lieu après, c'est-à-dire qu'une fois que les élèves ont repéré dans la revue technique le mode opératoire, ils doivent restituer à l'oral à l'enseignant avant de se lancer dans la réalisation de la tâche technique, ce qu'ils vont avoir à faire, les pièces qu'ils vont avoir à isoler et les activités qu'ils vont avoir à réaliser. Donc ce sont des activités langagières extrêmement complexes. Voilà, donc juste pour vous donner une idée concrète, je vous fais voir un petit bout.
Moteur. C'est non, tout ça. Attends, la courroie, c'est vers la culasse ou c'est vers là?
Culasse? Non, culasse, non.
Vous y voyez pas?
C'est une distribution. Donc c'est sûr.
Vas-y, combien? 7, 4, 17. Ah oui, 7. 7. Non. 17. Là, pour déposer le moteur, distribution. Déposer encore la distribution.
Distribution. Il faut enlever le cache. Tout son appel.
Attends, le couronne, ok. Tu peux la carte et courant, c'est tout le véhicule.
Ça? Faut enlever tout ça.
Bon voilà. C'est vraiment très court, mais ça vous donne quand même un petit aperçu de la façon dont ça peut se passer. Alors évidemment, ça se passe pas dans tous les binômes comme ça. Là on a affaire à 2 lecteurs, même s'ils sont considérés comme des lecteurs en difficulté à l'école, mais en tout cas ils sont engagés dans la tâche de recherche de la méthode de travail. Il se repère quand même dans la revue. Mais bon, après, si on poursuivait le visionnage, on verrait qu'il se heurte à de très nombreuses difficultés, mais des difficultés qui, pour certaines, ont été rencontrées aussi par d'autres mécaniciens novices, qui étaient Laurent Veillard et moi-même. Donc on a réalisé le TP pour essayer d'expérimenter la façon dont la revue technique est utilisé pour réaliser la tâche technique. Et donc ça nous a quand même permis de prendre un peu la mesure de la complexité, de prendre encore plus la mesure, parce qu'on le voit bien là. Voilà, donc dans ce binôme-là, on a affaire à des élèves qui sont engagés dans le travail scolaire, y compris dans celui d'utilisation de la revue. Dans d'autres binômes, on observe des stratégies de contournement de l'écrit, des stratégies d'évitement, des stratégies de faire appel à un tiers, qui peuvent être des stratégies efficientes, efficaces pour réaliser la tâche technique et pour réaliser des apprentissages techniques, mais qui, en même temps, sont parfois des stratégies d'évitement, d'appropriation de l'écrit, d'entrée dans les pratiques littéraciers, qui sont des pratiques évaluées, validantes, évaluées, et donc qui peuvent aussi donner lieu à des sanctions, qu'elles soient scolaires ou sociales ou professionnelles par la suite. Puisque, donc je crois que je finirai là-dessus, hein, je crois que ce qu'on observe ici est très révélateur de mutations profondes qui sont advenues aussi, dans le monde de l'éducation comme dans le monde du travail, où la place de l'écrit, la place des écrits, y compris dans des secteurs professionnels qui étaient réputés pratiques, où la place de l'écrit est en fait extrêmement importante. Et la valeur des compétences littéraciers, y compris dans des formations qui préparent à des métiers d'exécution, est extrêmement différenciatrice aussi à l'école et sans doute par la suite. Voilà, juste pour finir, ce travail donne lieu en ce moment à un projet piloté, lui, par les enseignants associés, donc de mécanique et de lettres histoire, qui ensemble travaillent avec une même classe sur la production, l'élaboration et la production par les élèves de tutoriels, c'est-à-dire d'un genre qui s'apparente au mode opératoire, qui implique la production de discours sur la pratique à l'attention d'autres élèves. Donc voilà, on pourra en reparler aussi, mais je vais terminer là. Merci de votre attention et pardon pour les turbulences dans le discours.